partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
J'intitule cette partie d'émission « Bologne, carrefour de la francophonie ». Alors, le voyage en Italie, au cher Stendhal, commence bien car nous sommes attendus non pas au relais de poste, mais à l'aéroport de Bologne par une universitaire charmante, le professeur Anna Soncini, spécialiste de littérature française et de littérature belge d'expression française. Je précise au passage que Stendhal a écrit de nombreux essais et nouvelles sur l'Italie, et parmi eux, Histoire de la peinture en Italie, qui date de 1817, et les fameuses Chroniques italiennes, qui datent de 1839. Alors, visiblement, la ville recèle de nombreux mystères derrière les façades de ses rues couvertes d'arcades, le décor de la capitale de l'Émilie-Romagne, sanctuaire du bien-manger, est inspirant. Beauté des pierres et des gammes, ocre, exaltée par la symbolique aérienne des tours et des campaniles. Dans un français impeccable, Anna Soncini commence à nous raconter l'histoire de sa passion pour la France. Une fois les bagages déposés à l'hôtel Cavour, cette femme séduisante, d'une intelligence vive, elle a un air de ressemblance avec la Québécoise Louise Baudouin, francophonie oblige, nous emmène visiter au pas de course l'école espagnole de Bologne. Une joie pour les yeux, un régal pour l'esprit. Bologne, la docte, s'offre à nous. Il faut savoir que son université est la plus vieille d'Europe, ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui à l'avant-garde du progrès scientifique. L'heure de notre premier rendez-vous avec le professeur Liano Petroni approche. À présent, à la retraite, cet homme fin, érudit, le doyen des francophiles de la ville, ancien directeur du département de français, a fort bien connu Jean Etiéblé, un excellent critique littéraire québécois. Monsieur Petroni entretient toujours des relations suivies avec Jacques Chevrier, qui a longtemps été titulaire de la chaire de la francophonie à la Sorbonne. Ce savant est sans conteste le fondateur en Italie des littératures francophones, et ce depuis 1973. Cette année-là, il a donné un premier cours sur la littérature maghrébine. Par la suite, il a formé la dynamique Franca Marcato, hélas disparue trop tôt dans la force de l'âge, laquelle, après avoir enseigné la littérature sénégalaise, s'était passionnée pour la littérature québécoise. Le professeur Petroni souligne qu'il a été très tôt marqué par de grands auteurs français comme Baudelaire, Rousseau, Vigny, Balzac, Musset, Mounier et Camus. Cet homme plein de ressources et d'enthousiasme, du haut de ses 79 ans, nous confie qu'il a fondé la très intéressante revue Francophonia en 1981. La même année, il a reçu un magnifique cadeau de ce même Jean Etiéblé, lequel a eu la délicatesse d'offrir à la bibliothèque de son département plus de 2500 volumes sur la littérature québécoise, une véritable mine de renseignements pour les chercheurs. Il se souvient que si, au tout début des années 70, son collègue québécois ne croyait guère à la littérature de son pays, à la fin de sa vie, il l'aimait d'un amour vif, la défendait et l'illustrait lui-même par ses écrits. Il faut savoir que Jean Etiéblé, une des figures les plus intéressantes du Canada français des années 70-80, est l'auteur de textes de qualité comme, je cite, « Les pays étrangers », c'est le titre d'un de ses livres, « Dictionnaire de moi-même »,« Minuit chrétien »,« Entre toutes les femmes ». Du critique, il est important de retenir les signés, oui, les signés, qui contiennent des morceaux d'anthologie. Donc, je vous donne les signés. Il y a plusieurs tomes. Montréal, le Cercle du Livre de France. Et le premier tome date de 1967. Non sans fierté, le professeur Petroni nous apprend encore qu'il a réussi à créer la seule filière en Italie permettant d'obtenir un doctorat de littérature francophone dans son département, et ce à partir de 1984. C'est donc dire que depuis sa création, l'on en remet un par an, ce qui est loin d'être négligeable. Quels sont ses auteurs québécois préférés? Sans hésiter, il répond Anne Hébert, surtout la romancière, car c'est aussi une poétesse. D'Antonine Maillet, il apprécie son Pélagie la charrette, livre qui l'a beaucoup touché, qui a reçu, il ne faut pas l'oublier, le prix Goncourt. L'œil devient malicieux lorsqu'il nous confie qu'il regrette que la France ne favorise pas plus le développement des littératures francophones. Il est intimement persuadé qu'elle pourrait en bénéficier beaucoup plus. Ça, il n'a pas tort. L'heure avançant, nous poursuivons notre entretien autour d'une bonne table à la Drogheria della Rosa, restaurant situé en face de l'université, des rigatoni au mascarpone et aux fraises. Tout est délicieux. Nul doute qu'un véritable art de vivre rapproche les peuples latins, ceux de la francophonie et de la Méditerranée. De temps à autre, nous échangeons quelques propos avec deux sympathiques Québécois installés juste à la table à côté. Il s'agit du poète et éditeur Normand Bellefeuille, de passage à Bologne, et de Gilles Dupuis, professeur invité cette année. Nous prenons rendez-vous pour le jour suivant. Après avoir salué la joyeuse compagnie, nous retournons à l'université afin de nous entretenir cette fois avec un autre personnage, le professeur Adriano Marchetti, un amoureux d'art et de poésie. Cet ami des poètes nous cite d'emblée ses auteurs favoris, Max Jacob, Rimbaud, Leopardi, Dante et Anne Hébert, traducteur en italien de certains poèmes de Simone Veil et de Joe Bousquet, ce fameux poète qui fut l'ami du regretté Jean Cassou. Jean Cassou, si on s'en souvient bien, a été le créateur du musée d'art moderne à Paris. Il confesse, Adriano Marchetti, je parle de lui, que son rêve serait de pouvoir traduire le Corneade de Max Jacob. Paris difficile s'il en est, ce passionné de littérature dirige également deux collections qui s'intitulent Episodi et Metaphrasis chez un éditeur de Rimini. Devenu depuis peu le nouveau directeur de Francophonia, il trouve stimulant de découvrir les littératures émergentes, mais à condition de toujours poser la question essentielle, qu'est-ce que la littérature? Il ajoute, s'il y a des empêchements, des barrages entre littérature francophone, ce n'est pas la faute des langages, mais le parti pris des sujets. Certains ici et là auraient grand intérêt à méditer de tels propos et à faire illico presto leur mea culpa. Parmi les auteurs francophones, il est attiré par Senghor et par le belge Henri Beauchaud, plus connu comme romancier, alors qu'en vérité il est plus poète que romancier. Revenons à Senghor un instant pour dire que Senghor a écrit un livre absolument merveilleux qu'il faut absolument se procurer et qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, Ce que je crois, chez Grasset, 1988. Pour la littérature québécoise, il retient également Claude Beausoleil, qui pratique, dit-il, la poésie avec modestie. Cet homme accueillant ne doute pas un instant de l'avenir de la littérature française, ni de celui des littératures du monde francophone. De tels propos, une fois rapportés, ne vont-ils pas rendre furieux tous les grincheux et les défaitistes? En retournant à pied, nous passons par la Piazza Maggiore et la Piazza del Nettuno, ensemble harmonieux, très animés, formant le cœur de Bologne. Les Italiens sont d'une curiosité rare. Ils semblent s'intéresser à tout, vivants, mobiles, vifs. Ils aiment faire plaisir, mettre à l'aise, renseigner. Ils ne sont pas avares de sourire. Le lendemain matin, avant d'aller au premier rendez-vous de la journée, nous profitons pendant de longues minutes du charme inépuisable offert par cette ville joyeuse et secrète, peuplée de nombreux jardins intérieurs, dérobés, luxuriants. Au-dessus des toits qui entourent la coupole de la basilique San Petronio s'élèvent 5 ou 6 tours qui datent du XIIe siècle. À cette époque, Bologne était le New York de l'Occident. Des documents que nous avons pu consulter attestent que plus de 110 tours s'élevaient au-dessus de la ville, la rendaient surréaliste. Ce devait être un spectacle étonnant, très avant-gardiste. L'universitaire Carla Fratta nous attend comme prévu. Elle a rédigé un mémoire de littérature française sur l'œuvre de Georges Simenon en 1975. Aujourd'hui, elle enseigne les littératures antillaises. Elle a très vite eu un coup de foudre pour l'œuvre d'Aimé Césaire et la littérature québécoise. Elle ne mâche pas ses mots lorsqu'elle glisse au fil de la conversation que les Français n'apprécient guère les littératures francophones. Il faut nuancer ces propos en précisant que le lourd passé colonial a longtemps empêché un dialogue égalitaire. Il nous semble qu'à présent, le vent est en train de tourner, tant mieux. Pour bien insister sur la force de son engagement dans la francophonie vivante et agissante, elle est venue accompagnée par Normande Bellefeuille et Gilles Dupuis, lesquels participent volontiers à l'entretien. En tant que directeur littéraire, il dirige la maison d'édition québécoise qui s'appelle France-Amérique. Le premier des deux se plaint à son tour de l'indifférence de trop de nos compatriotes. Il regrette la quasi-absence des auteurs francophones dans la collection de la Pléiade. Bref, il ne cache pas qu'il ne supporte plus la condescendance de certains. Il a raison, mais les francophones savent-ils toujours séduire les Français? Par exemple, entre Québécois et Français, plus qu'on ne le veut l'admettre, l'on assiste au choc de deux mondes très différents. Alors il nous semble que, de part et d'autre, il faudrait faire plus d'efforts et assumer nos propres maladresses. Dans son dernier livre, Philippe Séguin souligne bien à propos les nombreux malentendus qui affadissent nos relations. Et Philippe Séguin a écrit ce livre qui s'intitule « Plus français que moi, tu meurs », Albin Michel et l'an 2000. Dans le domaine de l'édition, les pays francophones auraient certainement intérêt à créer une structure de diffusion dynamique. Tous y trouveraient de réels avantages. Encore faut-il inventer la formule qui convienne. Il n'est pas faux de penser que la francophonie culturelle pourrait offrir de multiples possibilités à la littérature française, parfois un peu trop nombriliste et repliée sur son vaste miroir intérieur. Pourquoi ne pas en parler avec Philippe Solers? Bref, toute évolution passe par le dialogue, l'accueil, l'audace, la découverte, l'imagination, la générosité. Songeons à l'action exceptionnelle d'un Bernard Pivot ou à celle d'un Hubert Nissen, directeur, comme on le sait, d'Actes Sud, ou encore à celle d'un Jacques Fortin dans l'édition québécoise, directeur de Québec-Amérique. Multiplions les ponts, soyons œcuméniques. C'est ce que nous cessons de clamer depuis la fin des années 70. Certains responsables font mine de nous entendre poliment, mais ne nous écoutent point ou peu. Des ententes entre éditeurs français et québécois sont tout à fait possibles et rentables. Il en existe. Carla Fratta, alléchée par nos échanges virils, souhaite que les universités italiennes s'ouvrent davantage à la francophonie, à ces littératures émergentes qui passionnent souvent les jeunes séduits par le métissage du monde moderne. Elle nous confie que ses étudiants dévorent les œuvres d'Anne Hébert, d'Hubert Aquin, de Jacques Ferron et de Régent Ducharme, des auteurs originaux. Elle se plaint d'avoir beaucoup de mal à pouvoir se procurer les livres des auteurs québécois. S'ils ne sont pas publiés chez des éditeurs français, ils sont souvent introuvables. Nul doute qu'il faudrait qu'une structure permette aux livres de la francophonie de rayonner davantage. La Drogueria della Rossa nous accueille de nouveau pour le déjeuner. Comme le patron parle français, il nous explique de façon détaillée les recettes des plats qu'il nous sert. Notre italien, même très mince, s'améliore au fil des jours. L'Italie est un pays où un français et un francophone en général ne se sent pas le moins du monde en terre étrangère. C'est que la Bella Italia appartient aux sources mêmes de la magnifique culture occidentale. Ce sont des voyageurs, les Italiens, beaucoup plus que nos compatriotes. Songeons à l'ancêtre Marco Polo, qui fascinait tant le poète québécois Alain Grandbois, auteur d'un très beau livre sur l'illustre voyageur. Je m'arrête une petite seconde pour reprendre évidemment la suite de cette émission sur les francophiles italiens. Nous reprenons la suite de cette émission et ça sera la dernière partie pour les francophiles italiens pour aujourd'hui, évidemment. Et donc, durant ce séjour en Italie, quelqu'un nous a appris que le nombre de descendants des Italiens installés dans le monde depuis un siècle s'élève à environ 60 millions de personnes, autant que la population de la mère patrie. Pour la même période, le nombre de descendants des Français, est-ce que vraiment ces statistiques sont exactes, lui ne dépasserait pas les 10 millions. Ces chiffres invitent à réfléchir sur les raisons de l'influence d'un pays. À vrai dire, les données démographiques s'avèrent essentielles si l'on veut comprendre l'évolution de nos sociétés et leur rayonnement. Il est visible que l'art de vivre fascine autant les Italiens que les Français. Après avoir goûté aux délicieux tortellini du chef de la Drogheria della Rossa, préparés ces tortellini avec du pain mouillé, du lait, du fromage mélangé à des fleurs de courgettes, nous ne sommes en rien surpris d'apercevoir dans une des vitrines d'une bonne librairie de Bologne de vieux livres français. Tenez-vous bien sur Gargantua et Pantagruel. À côté de ces deux géants trône une méthode aisée pour conserver la santé. Tout cela est réjouissant. Dans une autre vitrine, le titre d'un livre italien nous enchante. « Sua Maestà il Tortellino »« Sa Majesté le Tortellini ». Nous n'avons que le temps de filer à notre rendez-vous avec Anna Sonsini, cette francophile émérite dont le mari occupe la fonction de consul honoraire de France à Bologne. Il paraît que, faute de moyens, notre chère France ferme ambassade, consulat et centre culturel. Espérons que le quai restructure pour le mieux, mais un conseil, un seul, nous vient à l'esprit, celui qu'en Italie, ce pays fier entre tous, il ne faut surtout rien fermer et ouvrir tout ce que l'on peut. Ce n'est certainement pas Pierre-Jean Rémy de l'Académie française qui nous contredira. Le visage d'Anna Sonsini, qui ressemble un peu par la forme et l'énergie, avons-nous dit, à celui de Louise Baudouin, l'ancienne ministre québécoise et passionnariat en faveur de l'indépendance du Québec, s'anime. Cette femme qui a bourlingué ne s'en laisse point compter, avec son père, un officier aux Nations Unies, en poste à Jérusalem, Tel Aviv, Damas et Beyrouth, elle a connu les signes précurseurs et les dangers de la guerre avant d'être baignée dans la tranquille Belgique. D'où sa passion très vive pour la littérature belge. D'emblée, le problème de l'identité de ce peuple l'a attirée. Traductrice en italien de Maurice Carême et de Thomas Owen, elle considère que les meilleurs écrivains wallons possède une langue française parfaite. Thomas Owen utilise une écriture magnifique très 17e et 18e siècle. Elle précise que du point de vue historique, lorsque la littérature française a connu quelques passages moins créateurs, par exemple à la fin du 19e siècle, les Belges ont su remplir les espaces vides. Songeons aux œuvres éblouissantes de Maeterlinck, de Rodenbach ou de Verhaeren, auteurs flamands qui ont su à cette époque profiter de la philosophie et de la mystique allemande mieux que les Français. Aujourd'hui comme hier, les Belges possèdent quelques écrivains exceptionnels, tels Henri Beauchaud, auteur de Œdipe sur la route, déjà nommé dans ce chapitre, ou Françoise Lalande. Anna Sonsini apprécie moins Amélie Nothomb, qui a cependant très bien su construire ses romans, mais cette dernière offre des textes plutôt légers qu'on lit vite. Du côté de la littérature française, ses auteurs fétiches se nomment Stendhal, Baudelaire, Balzac. Pour elle, Camus, cet homme tourné vers la justice, est le grand écrivain du XXe siècle. Comme une grève des trains nous empêche de nous rendre à Turin, Anna Sonsini nous conseille d'aller visiter la Pinacothèque qui abrite des œuvres de l'école bolognaise du XIVe siècle, mais aussi de la Renaissance et de l'école baroque. Cette école bolognaise, surtout celle des XVIIe et XVIIIe siècles, a beaucoup influencé des peintres français comme Fragonard ou Vigée Lebrun. Soudain, nous apercevons l'extase de Sainte-Cécile de Raphaël, tableau qui symbolise la beauté classique au fil des salles. En regardant les nombreuses œuvres qui illustrent l'histoire de l'Église, le visiteur comprend mieux le poids énorme de l'Église romaine à travers les siècles. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, 6 000 des 30 000 habitants de la ville étaient des moines, des prêtres et des religieuses. L'entente étroite qui existait entre le Vatican et l'Église catholique du Québec explique la relation privilégiée qui perdure encore de nos jours entre Québécois et Italiens. Les réseaux de la francophonie sont largement inexplorés, méconnus, ignorés. Ce détour par l'Italie permet de prendre conscience du fait que l'Église demeure une des clés essentielles de l'histoire du Québec. C'est en allant nous renseigner à la gare centrale que nous rencontrons par hasard Lucie Parent, une ancienne étudiante québécoise venue participer à la Foire internationale du livre de Bologne, foire spécialisée dans l'édition jeunesse. Décidément, le monde est petit et les francophones nombreux. Elle nous apprend que cette année, les Français sont à l'honneur et viennent de recevoir plusieurs récompenses. Mais elle ajoute que la qualité française fait peur, selon les propos de Jean-Manuel Bourgois, directeur général de Magnard. Un autre responsable français a même déclaré la veille « Les étrangers admirent la French touch, mais ne l'achètent pas. Trop sophistiqué, disent-ils. Il est vrai qu'en France, il existe un public exigeant de jeunes mamans, ce qui n'est peut-être pas le cas partout », souligne encore Lucie Parent. Comme notre séjour à Bologne touche à sa fin, le dernier soir, nous en profitons pour relire quelques pages du « Livre de ma mère » d'Albert Cohen. Ce francophone francophile, né à Corfou en Grèce, est un véritable amoureux de la France, en plus d'être un serviteur du monde méditerranéen. À la première page du chapitre 1er, une phrase retient notre attention. « Seul dans mon royaume et loin des salauds ». Cet aveu nous fait soudain penser à un autre personnage du monde francophone, le sociologue québécois Marcel Rioux, qui, avant de disparaître de notre planète, a écrit plusieurs livres passionnants. Le titre de l'un d'entre eux nous avait frappé. Il s'intitule « Pour prendre publiquement congé de quelques salauds ». Qui sont donc ces salauds que ne semblent point apprécier ces deux auteurs? Il est beau que deux francophones qui ne se connaissaient pas s'interrogent sur le monde des valeurs. Ils ont participé à cet univers en français qui croit à la perfectibilité de l'homme. Marcel Rioux et tant d'autres personnalités, dont certaines sont déjà oubliées, méritent un meilleur accueil parce qu'ils offrent à la francophonie des univers riches et fécondants. Ce séjour à Bologne confirme une fois de plus que la francophonie est d'abord culturelle avant que d'être politique. N'en déplaise à ceux qui ont la mémoire courte, l'expérience que nous vivons sur le terrain nous le prouve jour après jour. Nous replongeons dans ce livre d'Albert Cohen qui est beau, plein de sentiments forts. Le thème de la solitude, thème si universel, rayonne en une langue qui est d'une subtilité infinie. À quand la solitude rompue des francophones? Pour reprendre une formule symbole du renouveau aussi créateur que le Québec a connu dans les années 50 et 60, au cœur de cette Italie tournée vers la francophonie et le dialogue des cultures, les monuments somptueux témoignent de l'empreinte du passé, passé éclairé par un soleil couleur miel, distillateur d'une lumière particulière, toujours au service du renouveau, du temps présent et de la vie.